Oui, pour le thème d'aujourd'hui qui est l'amour de Dieu pour nous, je vais lire déjà Genèse 2,9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et maintenant le verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Et dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Voilà.
Bonjour à tous, bonjour à ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer. Alors, pour ce culte, Albert nous a proposé de réfléchir ensemble sur le thème de l'amour de Dieu. J'ai choisi de le traiter sous l'angle de la liberté des enfants de Dieu. Et pour ce faire, je me suis inspirée du petit livre d'Adrien Candiar, qui est moine dominicain au Caire. Et son livre, voilà, c'est un tout petit livre qui s'intitule Réflexion sur la liberté chrétienne à Philémon. Le peuple hébreu, vous vous souvenez, à peine libéré de l'esclavage et devant la dure condition du désert et l'incertitude qui l'accompagne, dit préférer retourner en Égypte. Au moins, on avait à manger tous les jours. La servitude, et surtout la servitude intérieure, a ses conforts. La liberté, elle, est fragile. C'est pourquoi il faut la sauvegarder à tout prix. Partons de l'hypothèse suivante. En tant que chrétiens, pouvons-nous faire ce que nous voulons? La vie chrétienne, me dira-t-on, ce n'est pas de faire ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Car faire ce que je veux plutôt que ce que Dieu veut, n'est-ce pas précisément ce qu'on appelle le péché? Regardons Adam et Ève. L'histoire est très claire. Dieu leur interdit de manger du mystérieux fruit. Ils veulent le manger quand même. Ils le mangent et cette transgression du commandement, du cadre donné par Dieu, c'est ce que la Bible appelle péché. Comme souvent, pourtant, surtout dans les textes que nous pensons bien connaître, la réalité est un peu plus complexe et plus intéressante. Dieu n'a pas dit à Adam et Ève, je vous interdis de manger de ce fruit, mais bien, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Quelle image de Dieu avons-nous donc dans la tête pour penser aussitôt que ce vous mourrez signifie je vous tuerai? Quel Dieu déciderait arbitrairement d'interdire quelque chose de bon, comme cela, pour le plaisir? Et punirait de mort la désobéissance? Certainement pas le Dieu de Jésus-Christ. Croit-on que quand les parents expliquent à leurs enfants de ne pas mettre les doigts dans la prise au risque de mourir, c'est parce qu'ils comptent les punir de mort? Peut-être faut-il admettre que Dieu, qui se présente avec tant de constance comme un père, comme le père par excellence, préfère lui aussi prévenir que punir. Le Dieu qui interdit quelque chose de bon par caprice ou par méchanceté, et qui menace les transgresseurs, la Bible en parle pourtant. C'est exactement ce dont parle le serpent à Adam et à Ève. Précisément, c'est de croire que Dieu est malveillant, qu'il souhaite les limiter pour son plaisir, qu'il leur interdit de bonnes choses parce qu'il ne les aime pas. De ne pas comprendre que Dieu les a simplement avertis pour leur bien. La vie n'est pas un terrain où ma volonté et la volonté de Dieu s'opposent. Je veux goûter le fruit, Dieu ne le veut pas, et dès lors, je n'ai d'autre choix que la soumission ou la révolte. La réalité est un peu différente. Je veux vivre, et Dieu veut que je vive. Nous voulons la même chose, mon bien. Dieu ne m'interdit rien, mais il m'avertit que les moyens que je veux employer parfois sont très mal choisis. L'erreur d'Adam et Ève, pour le dire autrement, c'est de confondre l'interdit et l'impossible. Dieu leur dit qu'il est impossible de manger du fruit, de ce fameux fruit, et de vivre. Le serpent, le trompeur et manipulateur, met le doute dans leur esprit, et il insinue que Dieu n'est pas aussi bon qu'il semble, et ne dit pas tout. Ils comprennent alors que c'est interdit, alors même que cela leur semble faire du bien. Tous les commandements de Dieu, pourtant, ne font que nous avertir de ce qui est impossible. La tentation est de rêver d'un autre monde où l'impossible n'existe pas. Manger du fruit mortel du jardin et de ne pas mourir. Un monde où on peut se droguer, mais en restant libre, sans dépendance. Où on peut inviter au restaurant la charmante stagiaire du boulot et rester un père de famille exemplaire. Un monde où on peut être à la fois voleur et heureux. Le tour de force du tentateur, depuis le serpent, c'est de nous faire croire que tout cela n'est pas impossible, mais tout simplement interdit. Il y a deux façons de traiter l'oreille à ce tentateur. La plus évidente consiste à se révolter devant ce Dieu tyrannique et jaloux. Mais on peut aussi accepter sa domination, s'en faire l'esclave. Dans les deux cas, quelle catastrophe! Quel contresens devant ce que Dieu essaye de nous dire, car il y a une façon de faire la volonté de Dieu, c'est en aimant cette volonté, en croyant qu'elle est bonne pour nous, qu'elle nous conduit à un bien véritable. C'est donc en la voulant librement. Il ne s'agit pas d'obéir sans réfléchir, mais de comprendre. Et en comprenant, je vais trouver le bien désirable et le mal dangereux. J'agirai alors librement parce que j'ai reconnu mon bien et le chercherai de mon plein gré. Alors je ferai ce que je veux et ce que Dieu veut. En effet, l'ennui, si je confonds la vertu avec une soumission pénible, et d'autant plus méritoire bien sûr qu'elle est pénible, à une volonté de Dieu incompréhensible, c'est qu'alors dans un coin de ma tête, je continue de penser que ce péché, il me ferait pourtant du bien. Si Dieu est un tyran, même si j'entends lui obéir, la transgression aura toujours des couleurs séduisantes. Que de rapports ambigus et malsains au mal prennent leur source dans cette confusion qui nourrit bien des addictions et des sentiments de malaise. C'est qu'on continue de croire que le mal n'est que dans la transgression, alors que c'est au contraire le péché, cette cible manquée qui nous détruit. Le sentiment dominant du pécheur, ce n'est pas tant la honte de l'aveu, qu'il faut pourtant du courage à reconnaître, mais le malheur, une douleur presque physique qu'il y a à raconter quelque chose d'injustifiable, et qui pourtant est ma vie. On ne peut être heureux et libre quand on est en guerre contre sa conscience. Paul a découvert sur le chemin de Damas que la vie chrétienne ne peut être un ensemble de choses à faire pour mériter l'amitié de Dieu. mais l'accueil de cette amitié que le Christ propose. Et cette amitié, comme toute amitié vraie, ne s'impose pas à coup de commandement. Elle se choisit librement. C'est elle qui, peu à peu, transforme le cœur de l'homme, qui peut changer, non parce qu'il se sent faible, parce qu'il se sent coupable, mais parce qu'il se sait aimé. L'homme peut changer parce qu'il se sait aimé. Pensons à toutes ces rencontres de Jésus dans les évangiles, Zachée, la femme samaritaine et tous les autres. C'est l'amitié avec le Christ, c'est la présence de Dieu en nous par le Saint-Esprit qui peut à la fois nous éclairer sur ce qui est bon, nous donner envie de l'accomplir et nous libérer patiemment de tout ce qui nous en retient. C'est cette fréquentation de Dieu qui seule nous libère du péché, cette cible manquée, et qui détruit notre liberté. Dès lors, la question n'est plus de savoir si nous avons accompli ceci ou cela, ou si Dieu voudra bien nous pardonner ce petit écart, mais de nous donner entièrement dans cette amitié que Dieu nous offre. Se lancer dans cette arithmétique qu'on ait de Dieu l'image d'un juge inflexible et terrible ou d'un papy gentiment laxiste, c'est dans les deux cas n'avoir pas compris la nature même du salut. Nous ne pouvons entrer dans cette amitié sans y entrer avec toute notre personne. Une personne encore imparfaite, sans doute, mais Dieu saura bien nous conduire pour peu que nous soyons vraiment là, décidés à le suivre. C'est peut-être parce que nous sentons que cette morale, ce que cette morale a d'exigeant, que nous nous dérobons si souvent, préférant celle de l'obéissance au commandement, finalement tellement plus facile. Nous croyons chercher la face de Dieu, mais c'est lui qui recherche la nôtre, inlassablement, parce qu'il sait que ce face-à-face pour lequel il nous a créés, c'est le seul horizon qui soit à la mesure de notre cœur en quête de liberté, de notre cœur en quête d'infini.
Maintenant, nous aurons une lecture, Daniel et Mireille, psaume 95, psaume 30 et Jean 15, 8 à 12.
Le psaume 95, versets 1 à 7. Invitation à l'adoration. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi. Ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Le psaume 30 traite de la louange après la délivrance, donc verset 5. Chantez en l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté.
Alors, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, le verset 5. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et à partir du verset 8 jusqu'à 12, donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples, alors vous montrerez la gloire de mon Père. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé, restez dans mon amour. J'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Donc, je vais faire un partage par rapport à notre amour pour Dieu. Et le psaume 95, c'est un psaume très riche qui montre qui est Dieu. Il tient toutes choses entre ses mains. Il a fait l'univers. Et en plus, il nous a créés. Il nous tient, nous sommes le troupeau, ce troupeau dans sa main. C'est lui qui nous tient et c'est lui qui nous conduit, ce grand Dieu. Alors, comment ne pas manifester vis-à-vis de lui un amour grand également, même si des fois notre amour est tellement faible, petit vis-à-vis de lui. C'est le louer, le chanter. Nous venons de le faire, nous avons chanté, loué la grandeur, la magnificence de Dieu. Et vraiment l'acclamer devant toutes les puissances qui sont autour de nous. Et c'est très important parce que pour nous, ça nous rend fort également. Et ça montre à tout ce qui peut vouloir nous détruire que c'est Dieu qui nous tient dans sa main. Rien n'est impossible à lui. Il est notre sauveur et notre rocher. Et le verset 3, il est dit, l'Éternel est un grand Dieu. Il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Donc vraiment, nous pouvons que nous incliner, nous prosterner devant lui, lui dire ainsi notre amour. Et il y a des fois, quand on chante, j'ai envie de m'agenouiller, quoi, parce que ce grand Dieu est là au milieu de nous et nous n'avons qu'à vraiment lui dire toute notre reconnaissance et notre adoration en pliant le genou. Et ensuite, j'ai pris ce passage de Jean 15 où Jésus nous montre le chemin. Il est la vigne, nous sommes les branches. Alors si nous ne sommes pas attachés, accrochés à au cep, comment allons-nous vivre? Il suffit qu'on soit un peu, vous avez déjà vu dans la forêt des choses qui sont cassées, elles vivent encore, mais elles ne donnent pas toute leur pleine vie, leur plein fruit. Donc Jésus nous dit, je suis le cep. Alors, c'est moi qui vais vous donner la vie, c'est moi qui vais produire. Vous allez donner du fruit, mais c'est moi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est moi qui vais mettre cette sève en vous pour que vous puissiez produire. Mais restez attachés à moi, restez attachés à mon amour. Et rester attaché à son amour, eh bien, c'est aussi vivre cet amour. Ce n'est pas le vivre que pour nous. Mais si nous voulons porter du fruit, c'est le vivre parce que nous vivons chaque jour, quoi. Et moi, je le vois par moi-même. Qu'est-ce que c'est difficile de vivre sans s'énerver, de vivre, voilà. Mais mon âme, c'est pas mon âme de me diriger. C'est petit à petit mon âme qui doit s'effacer pour que son esprit me transforme et me donne la façon de vivre la meilleure qui est la sienne. Mais mon âme, elle est toujours là. J'ai toujours mes sentiments, j'ai toujours ma vie en moi, mes ressentiments peut-être aussi. Mais c'est plus moi qui dois prendre, quand vous êtes en voiture, moi ça m'arrive souvent, ça m'énerve, il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Ben, je dis, ah oui, c'est vrai, ça y est, ça reprend. Mais petit à petit, le Seigneur doit contrôler notre vie, quoi. Et c'est par cet esprit, l'esprit de Dieu en nous, qu'il va le faire. Il a de la patience pour nous aussi, pour nous montrer le chemin, nous dire, tu dois aller plus loin, tu dois grandir en moi. Et j'ai pensé aux fruits de l'esprit, mais bien sûr, on sait, on connaît, enfin, Galates 5, 22, l'amour, la patience, la joie, la bonté, la maîtrise de soi, enfin, tout ce que l'esprit va mettre petit à petit en nous, si nous le laissons faire. Parce que c'est lui qui va le faire, mais si nous le laissons faire.
Et c'est vrai que ces temps, ça me... je suis touchée et émerveillée de l'amour de Dieu pour nous. Et qu'on puisse vraiment s'imprégner de son amour. Que ça coule en nous, quoi. Et c'est ainsi que nous allons aimer le Père et Jésus, si nous le laissons vraiment transformer notre vie. Voilà comment on peut aimer le Seigneur. Et si j'aime le Seigneur de cette façon-là, évidemment, eh ben, ça va en découler sur les autres. Donc, aimez-vous les uns les autres. C'est ce que le Seigneur nous dit plusieurs fois, aimez-vous les uns les autres. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi une chose de la façon d'aimer Dieu, de montrer que nous aimons Dieu, c'est d'être conscient de tout ce que nous avons reçu en Christ. Et pour cela, je vais vous lire Colossiens 3, 2, verset 3. En Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. À qui irions-nous d'autre qu'à Jésus? Et je voulais aussi vous lire Éphésiens 3, 17, 19. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qui est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine, de la plénitude de Dieu. Rendez-vous compte que Dieu veut nous remplir de sa plénitude. Mais quelle chose extraordinaire! Et je vais juste terminer, parce que c'est un passage important. Et je voulais aussi juste signaler, enfin redire, mais ça nous le savons, qu'en nous laissant transformer par Jésus, nous allons vraiment vivre la nouvelle création que Dieu attend en nous, qu'il veut. Et c'est ça, son but, c'est de nous recréer à l'image de Christ, dans la maturité de Christ. Donc, je vais vous lire Romains 12, cette vie transformée, versets 1 à 2. Je vous demande donc, frères et sœurs, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer tout votre être entier, que votre corps, que vos forces, toutes vos facultés soient mises à sa disposition, comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation, afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Voilà, et je vous conseille de continuer la lecture de ce chapitre, qui est aussi dans cette même mesure. Et maintenant, nous allons prendre un chant qui s'appelle « Hosanna ».